Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24. Florent Guignard.
Bonsoir, bienvenue dans Mardi Politique. Notre invité cette semaine, le secrétaire d'État aux Affaires européennes. Bonsoir, Harlem Désir.
Bonsoir.
Avant de devenir ministre, et c'était bien avant, c'était il y a tout juste 30 ans, vous étiez le très emblématique président de SOS Racisme. Vous êtes ensuite devenu député européen, un an et demi premier secrétaire du Parti Socialiste, sous le feu des critiques jusqu'en avril dernier avec cette promotion dans le gouvernement Valls. Vous serez interrogé dans Mardi Politique Harlem Désir par Roselyne Fèvre de France 24. Bonsoir.
Bonsoir Florent.
Et Rémi Daudet de Libération. Bonsoir.
Bonsoir.
Des chiffres qui donnent la migraine et il n'y a que des soustractions. Les députés examinent depuis quelques heures à peine maintenant le projet de budget 2015 du gouvernement, le même texte qui sera envoyé demain à la Commission européenne à Bruxelles. En dépit des critiques déjà émises par plusieurs responsables européens, la France, une nouvelle fois, n'est pas dans les clous. Elle ne respectera pas l'engagement des 3% de déficit budgétaire. Michel Sapin, le ministre des Finances, affichait pourtant cet après-midi un ton très ferme à l'Assemblée nationale.
Quand on a une même monnaie, on doit partager avec les autres pays des éléments de confiance. Et dans la confiance que l'on doit avoir les uns avec les autres, il y a le regard que l'on porte sur le budget des uns et des autres. Je ne connais qu'un seul endroit où l'on peut rejeter, où l'on peut repousser, où l'on peut censurer, où l'on peut amender un budget, et c'est ici même, et vous aurez l'occasion de le voir, et nous verrons à ce moment-là qui exerce vraiment la souveraineté nationale et qui est majoritaire dans cette Assemblée.
Voilà le ministre des Finances cet après-midi devant les députés, Harlem Désir, on entend le ton de Michel Sapin. La France entame un bras de fer avec l'Europe demain ?
Non, je crois que Michel Sapin répondait surtout à une question de l'opposition pour réaffirmer que la France et l'Assemblée nationale française étaient évidemment souveraines pour adopter son budget. Et qu'en même temps, nous sommes dans une monnaie commune, l'euro, qu'il y a des traités, il y a des engagements qui ont été pris par l'ensemble des pays qui ont décidé de constituer ensemble cette monnaie et que, évidemment, la France respectera ces engagements et les traités. Mais les traités, ils doivent être exécutés, ils doivent être mis en œuvre avec intelligence, en tenant compte d'une part de la situation économique de la zone euro et d'autre part des réformes qui sont engagées et qui vont aider chacun des États membres, la France comme les autres, à un redressement de la situation économique. Et évidemment, ce qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, c'est une situation dont le FMI, la Banque Centrale Européenne, l'OCDE considèrent qu'elle est marquée par un risque de stagnation extrêmement longue, voire de déflation, puisque nous avons une croissance qui a non seulement ralenti, mais qui est devenue négative dans plusieurs pays européens. Elle a été nulle au deuxième trimestre en France, mais elle a été de moins 0,2 en Italie, moins 0,2 en Allemagne. Donc, c'est pas un problème qui est spécifique à un pays, c'est un problème qui est celui de l'ensemble de l'Europe, alors que la croissance repart, par exemple, aux États-Unis, qu'elle a redémarré aussi dans les pays émergents. Une inflation qui est exceptionnellement basse, 0,4% en moyenne annuelle, voire 0,3%, alors que la Banque Centrale avait fixé un objectif de 2%. Donc la France respecte et respectera ses engagements budgétaires en matière en particulier de réduction de la dépense publique. Mais quand il n'y a pas de croissance et qu'il n'y a pas d'inflation, eh bien vous avez moins de rentrées fiscales, vous avez moins de facilité à faire baisser l'endettement. Et il faut que dans la zone euro, nous coordonnions nos politiques économiques et nos politiques budgétaires, de telle sorte que nous n'aggravions pas cette situation, mais qu'au contraire, nous nous donnions les moyens d'une relance de l'investissement, de l'emploi et donc de la croissance.
Alors on verra ça comment. Une question, Roselyne Fèvre, France 24.
Oui, quand j'écoute Michel Sapin, il dit monnaie commune, on doit avoir une confiance. Moi j'ai envie de demander, est-ce que quand on a une monnaie commune, on ne doit pas avoir des obligations commune. Est-ce qu'on peut montrer un mauvais exemple qui est dans le fond le régime de faveur que aurait la France au nom d'une souveraineté qu'on brandit quand ça nous arrange ?
Nous ne demandons pas de régime de faveur, nous ne demandons pas de modification des règles, nous ne demandons pas
d'exception. Oui, mais vous ne modifiez
d'exception.
Pas le budget.
Non. Nous, justement, nous tenons les engagements que nous avons pris, comme l'ensemble des pays de l'Union européenne. Au printemps, nous avons adressé un plan de finances publiques sur 3 années. Et dans ce plan triennal, nous avons notamment fixé un objectif, c'est de réduire de 50 milliards d'euros la dépense publique d'ici à 2017 et de commencer par l'effort le plus important dans le budget 2015, c'est-à-dire une réduction de 21 milliards de la dépense publique. Pourquoi d'abord nous prenons ces engagements ? Pas pour le plaisir de restreindre le niveau de la dépense publique, parce que en France, la dette s'est accrue, elle a doublé en 10 ans. Elle a été accrue de 600 milliards entre 2007 et 2012. Et que cette dette, à la fin, ça devient des impôts parce qu'il faut la rembourser. Or, nous pensons que pour restituer du pouvoir d'achat aux ménages, mais aussi pour redonner des marges d'investissement aux entreprises, il faut baisser le niveau des impôts, des taxes, des prélèvements sociaux. C'est le pacte de responsabilité.
On a bien compris, Arlène Désir, donc, 21 milliards, pas plus, pas moins, sauf que la Commission européenne, elle dit les efforts de la France, c'est pas assez. Est-ce que aujourd'hui, la France prend le risque de présenter un budget qui risque d'être rejeté ?
Alors d'abord, on a fait dire à la Commission européenne qu'elle avait déjà porté une appréciation, un jugement sur le budget de la France. Ça n'est pas le cas. Il ne faut pas confondre des commentaires qui peuvent être faits aujourd'hui par les uns ou par les autres et une expression de la Commission européenne qui ne s'exprimera que quand elle aura reçu le budget de la France, qui va lui être envoyé demain, le 15 octobre.
Il y a des critiques du président de l'Eurogroupe, des Allemands, du ministre des Finances allemand.
Mais le président de l'Eurogroupe, c'est pas le président de la Commission européenne, c'est pas non plus le commissaire aux affaires économiques et financières, et c'est bien à la Commission européenne, vous avez raison de le souligner, de porter une appréciation sur le budget de chacun des 18 pays qui participent à l'euro, et même d'ailleurs des 28 États membres, pour vérifier que les pays respectent leurs engagements, et surtout que la façon dont nous conduisons nos politiques économiques, et en particulier nos politiques budgétaires, ne portent pas préjudice à la stabilité, à l'avenir de l'euro, et contribuent à redresser la situation économique. Donc nous respectons nos engagements en matière de réduction de la dette et de réduction des déficits, mais nous ne voulons pas mener une politique d'austérité, qui d'ailleurs aggraverait la situation économique dans la zone euro. C'est aussi une leçon qui a été tirée par l'Europe collectivement.
Oui, la Grande-Bretagne et l'Espagne ont fait aussi des cures de rigueur. Ils se sont remis.
La Grande-Bretagne est en dehors de la zone euro. Elle aura un déficit bien supérieur au nôtre l'an prochain.
Elle a beaucoup plus de croissance aussi.
Donc elle n'est pas contrainte par les mêmes engagements. Le déficit sera plutôt de l'ordre de 5%. L'Espagne, aujourd'hui, n'a toujours pas récupéré le niveau de production intérieure brute d'avant la crise 2008. Le chômage en Espagne, même s'il diminue doucement, est encore de 24,7%. On dit, et on a raison, qu'en France, le chômage a atteint un niveau insupportable. Il faut voir qu'en Espagne, j'étais à Madrid il y a quelques jours, ça reste quand même encore une question qui concerne un quart de la population, et pour ce qui est des jeunes, 50% des jeunes de moins de 25 ans au chômage.
Espagne,
je vous remercie de l'avoir mentionné, parce que nous travaillons ensemble, la France, l'Espagne, tous les pays, l'Allemagne, de la zone euro. C'est la crainte qu'il y ait une troisième rechute. C'est-à-dire qu'en réalité, la situation de récession qui menace aujourd'hui dans la zone euro n'amène un certain nombre de pays qui pouvaient commencer à redresser la tête à connaître un recul très grave. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un pays qui peut s'en sortir tout seul dans la zone euro. Même la première économie de la zone euro, l'Allemagne, qui est un pays dont on connaît les performances, par exemple, en matière d'exportation, de commerce extérieur, je l'ai rappelé tout à l'heure, connaît aujourd'hui un ralentissement très préoccupant. Et l'une des leçons qui est tirée, y compris par le ministère de l'économie en Allemagne, c'est qu'il faut aujourd'hui soutenir la demande, et en particulier les investissements. Et les investissements à la fois publics et privés, notamment dans les infrastructures, les routes tout simplement, les ponts, mais aussi dans les domaines d'avenir. J'espère qu'on va en parler, parce que cela, c'est vraiment la façon dont l'Europe peut se préparer à sortir de la crise.
Donc investir ensemble dans l'énergie. C'est le message que vous envoyez à Berlin, c'est faites des investissements d'infrastructures, et nous, la France, on viendra faire ces travaux d'infrastructure. C'est le deal.
C'est un élément du débat. C'est pas du deal, mais c'est un élément du débat. C'est comment ensemble faire en sorte de sortir la zone euro de cette stagnation dont les Américains disent qu'elle pourrait être, ils appellent ça secular stagnation, c'est-à-dire une stagnation de la croissance qui pourrait durer indéfiniment, un peu comme le Japon l'a connu pendant plus de 10 ans. Comment est-ce qu'on sort de ça? Juste pour dire comment on a ce débat avec l'Allemagne, avec l'Espagne, etc., en combinant mieux quatre politiques. La politique monétaire, c'est ce qu'a fait Mario Draghi en prenant des mesures extrêmement fortes de baisse des taux d'intérêt et d'injection de
liquidités.
L'euro
baisse un petit peu par rapport au dollar.
Et l'euro a baissé de près de 8%, ce qui est bon pour nos exportations à tous. Deuxièmement, la politique budgétaire. Et là, c'est le débat sur la coordination de nos politiques budgétaires, mais en faisant en sorte que par des restrictions budgétaires trop fortes, on n'aggrave pas la situation. Donc, il ne faut pas mener des politiques d'austérité. Il faut réduire l'endettement et les déficits, mais il ne faut pas mener des politiques récessives. La politique d'investissement. Et là, nous avons un retard très important. Nous sommes 15% en dessous du niveau d'investissement en Europe, en dessous du niveau d'investissement public et privé d'avant la crise de 2008. Et nous consacrons moins d'investissement public que les États-Unis en proportion de notre PIB. Donc là, il y a un retard. Et puis le quatrième élément, c'est le soutien à la politique de l'emploi, en particulier de l'emploi des jeunes. Et c'est pourquoi il y a eu un sommet des chefs d'État et de gouvernement à Milan il y a une semaine pour confirmer l'engagement de consacrer 6 milliards d'euros à l'emploi des jeunes, et notamment en France, avec la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse.
Arlène Désir, une question de Rémi Daudet, de Libération.
Pour en venir à la Commission européenne, vous dites alors que ce qui vient de la base, pour l'instant, ce ne sont que des bruits. Alors, on a quand même lu que la Commission réclamait 8 milliards de plus dans le budget. Est-ce que c'est que des bruits? Et finalement, tout va bien se passer, est-ce que vous nous dites? Tout va bien se passer, la Commission va valider le budget de la France comme si...
La Commission, elle va prendre connaissance du budget de chacun des États membres, de la France et des autres, demain. C'est le 15 octobre que chaque pays va transmettre son projet de plan budgétaire pour 2015. Ensuite, elle a 15 jours, donc en fait jusqu'au 29 octobre, si on veut être très précis, parce qu'elle se réunit en général le mercredi, et donc jusqu'au 29 octobre pour porter un jugement, une évaluation sur le budget de chacun des pays. Et ensuite, elle fait des remarques, ou elle n'en fait pas d'ailleurs, mais il revient...
Elle sanctionne.
Non, elle ne peut pas sanctionner. J'ai vu ces termes utilisés, censurer, sanctionner, rejeter. Non,
ça commence par un avertissement.
Non, pas forcément. Elle peut aussi dire, compte tenu des explications qui nous ont été données, nous comprenons la stratégie budgétaire de chacun des États membres.
Concrètement, ensuite, aujourd'hui, le gouvernement français...
Mais je voudrais juste, pour conclure, vous dire qu'ensuite, de toute façon, c'est l'Assemblée nationale, en France, et le Parlement dans chacun des pays, qui vote le budget pour 2015. C'est-à-dire que c'est pas la Commission européenne qui peut imposer un budget. Elle porte une appréciation, elle dit si ce budget lui semble conforme avec la stratégie de réduction des déficits et de désendettement, et nous aurons donc une discussion avec la Commission européenne.
Mais on sait très bien, Arlène Désir, que ces discussions, elles ont déjà commencé depuis plusieurs semaines. Est-ce que vous avez aujourd'hui des assurances qu'il n'y aura aucune sanction contre la France?
Mais il n'y a pas de sanction dans ce mécanisme. Il n'y a vraiment que si un pays ne respectait pas les traités. Ce n'est pas du tout notre attitude. Nous tenons aux traités qui ont permis de créer l'euro. L'euro nous protège dans la crise.
Mais ça fait quand même deux fois, Arlène Désir, que la France reporte son objectif de respect des 3% de déficit budgétaire. Est-ce qu'à un moment, la Commission, pour garder un petit peu de crédibilité, ne va pas devoir taper du poing sur la table?
Mais la Commission européenne, elle a comme souci l'intérêt général européen. L'intérêt général européen, c'est que la croissance redémarre en Europe. La leçon que tout le monde tire de la situation actuelle, c'est qu'il faut à la fois...
Le
FMI, c'est que pour que la croissance redémarre...
Pas. Personne ne va venir nous sauver de l'extérieur, ni la croissance mondiale, ni la croissance européenne.
Ce que dit le FMI, c'est qu'aujourd'hui, alors que la croissance était en train de redémarrer ailleurs dans le monde, le fait qu'en Europe, il y ait une croissance nulle, voire négative, dans plusieurs des grands pays de la zone euro depuis le début de l'année, qu'il y ait une inflation très basse, fait courir un risque sur la situation économique mondiale. Et ce que demande le FMI, c'est qu'on ne mène plus de politique d'austérité en Europe, mais qu'au contraire, on soutienne les investissements. Ce que nous défendons, et que l'on fasse des réformes. Exactement. Et je pense qu'il ne faut pas opposer l'un et l'autre.
La France défend ça, François Hollande défend ça depuis 2 ans et demi. Les Allemands, on les entend beaucoup, beaucoup moins sur cette question.
Mais je crois que même en Allemagne, le débat est en train d'évoluer. Parce que plusieurs directeurs d'instituts économiques allemands ont souligné au cours des derniers jours le fait qu'il y avait un retard d'investissement en Allemagne et que malgré le fait que l'Allemagne, je l'ai dit, était une économie très performante du point de vue de sa compétitivité internationale, aujourd'hui, elle souffrait d'un manque de demande intérieure. Et c'est pourquoi, d'abord, il y a eu des décisions qui ont été prises, en particulier sous l'impulsion de nos amis du SPD, pour augmenter les salaires en Allemagne. Il y aura un salaire minimum à 8,50 € en Allemagne à partir du 1er janvier prochain. Et deuxièmement, il y a un débat en ce moment en Allemagne pour augmenter le volume des investissements avec un chiffre qui est celui du ministère de l'économie et de plusieurs instituts allemands, qui est qu'il y a un manque de 80 milliards d'euros par an d'investissement dans les infrastructures en Allemagne.
Alors, l'Allemagne et la Commission européenne demandent à la France des réformes structurelles. Hein, c'est la petite musique qu'on entend depuis plusieurs mois, plusieurs années même. Et il y a eu cette offensive, là, ces derniers jours, de Manuel Valls, puis d'Emmanuel Macron, en faveur d'une réforme de l'assurance chômage. On avait cru comprendre que François Hollande n'était pas très chaud. Et puis au terme d'un nouveau week-end cacophonique, ben, on ne comprenait plus rien du tout. Dites-nous clairement les choses aujourd'hui, Harlem Désir. Il y aura-t-il renégociation du régime d'assurance chômage avec un possible raccourcissement des indemnités pour les chômeurs?
Mais d'abord, le régime d'assurance chômage en France, c'est un régime paritaire.
Donc on a compris, ça, oui, c'est les syndicats et le patronat qui...
Voilà, parce que ça veut dire que c'est, il est à chaque fois renégocié entre le MEDEF et les organisations syndicales. Il vient d'y avoir un accord au début de cette année, et cet accord, la convention inédite qui a été renouvelée, permet de réduire le déficit, même si malheureusement, à cause du niveau de chômage, il reste un déficit, parce que plus vous avez de chômage, plus vous devez verser d'indemnités à des chômeurs, et surtout moins vous avez de cotisants. Bon, donc il reste un déficit, mais il y a quand même un accord, c'est-à-dire que les employeurs sont d'accord pour le volume de cotisations qu'ils ont à payer, et les salariés aussi, puisque les syndicats salariés ont majoritairement signé cet accord. Cette convention unédique, elle devra être renégociée, parce que régulièrement, elle doit l'être, de nouveau en 2016. Et par ailleurs, régulièrement, tous les 6 mois, les partenaires sociaux, en fonction justement de l'évolution de la situation de l'emploi et des comptes de l'UNEDIC, rediscutent éventuellement d'aménagement. Oui, mais il faut qu'on respecte cette mécanique du dialogue social. On sait d'ailleurs que la ratification de la convention UNEDIC a posé des problèmes pour certaines catégories.
Donc Emmanuel Macron a eu tort de dire ça dimanche. Non,
Emmanuel Macron, je crois, dans l'interview qu'il a donnée dimanche, a souligné le fait surtout qu'il souhaitait qu'il y ait un New Deal européen qui porte notamment sur des mesures de soutien à la croissance, à l'investissement, à l'emploi. Et par ailleurs, sur les réformes, il a noté qu'il y avait une réforme du marché du travail qui avait déjà été engagée en France. Ça a été l'accord interprofessionnel. Et qu'il y avait une discussion qui pouvait continuer. D'ailleurs, elle va avoir lieu entre les partenaires de l'UNEDIC et Pôle emploi sur les conditions de l'indemnisation du chômage. Mais il n'y a pas de remise en cause de l'accord UNEDIC.
Monsieur, est-ce que Macron et Valls ne montent pas au filet? Parce que dans le fond, c'est pour donner aussi des gages à Bruxelles en disant regardez, on va faire des réformes, on sait tous que dire ce n'est pas faire, mais est-ce que c'est une manière aussi, tout ça n'est pas totalement orchestré, on n'est pas
non,
un neuneu. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme d'orchestration bien définie entre tous, où chacun a son rôle?
Bon, je ne crois pas, je pense que vis-à-vis de Bruxelles, comme on dit, c'est-à-dire de nos partenaires européens et de la Commission européenne, comme vis-à-vis des Français, nous avons besoin d'expliquer le sens des réformes que nous faisons. C'est vrai que moi, je suis frappé par le fait que quand le Premier ministre s'est rendu en Allemagne ou en Grande-Bretagne, moi-même dans mes déplacements à mon modeste niveau, lorsque nous expliquons les réformes que nous menons, aussi bien celles que j'ai rappelées tout à l'heure qui consistent à réduire le volume de la dépense publique, la simplification administrative, la réforme territoriale qui va quand même nous faire passer de 22 régions à une douzaine, ce que nous faisons pour renforcer la compétitivité des entreprises, tout cela n'est pas assez connu et nous devons l'expliquer. Et nous le faisons, encore une fois, non pas pour Bruxelles, mais nous le faisons pour nous-mêmes parce que c'est indispensable pour répondre à un certain nombre de retards.
Sauf à Harlem Désir que dans l'esprit des citoyens, c'est l'Europe qui demande à la France de faire des économies, c'est l'Europe qui demande à la France de réformer son marché du travail. Est-ce qu'on n'est pas là au cœur de la défiance des citoyens vis-à-vis de l'Europe et de cet abandon de souveraineté en fait que les politiques ont concédé à l'Europe et que les citoyens reprochent à leurs gouvernants?
Ce qui est vrai, c'est qu'il faut que l'Europe soit synonyme de projet. Pas seulement de règles ou de contraintes. Et qu'il faut aussi arrêter de faire porter à l'Europe le chapeau de difficultés qui sont les nôtres. Par exemple, aujourd'hui, dans la zone euro, il y a des pays qui sont donc dans la même zone monétaire que nous, mais qui ont une très bonne compétitivité en termes d'exportation. Et nous, par exemple, nous avons un commerce extérieur qui est devenu déficitaire. Donc nous avons à faire une réforme du point de vue de notre compétitivité, non pas parce que Bruxelles nous le demande, mais parce que nous souhaitons que nos petites et moyennes entreprises exportent mieux et soient plus compétitives dans
la
mondialisation.
Merci Harlem Désir. Une courte pause, on se retrouve juste après.
Mardi politique, en partenariat avec Libération et France 24. Florent Guignard.
C'est la seconde partie de Mardi Politique avec Harlem Désir, le secrétaire d'État aux affaires européennes, pour vous interroger, toujours dans ce studio, Rosine Fèvre de France 24 et Rémi Daudet de Libération. Alors avant d'en revenir à la politique française, quelques mots, Harlem Désir, sur la situation internationale en Syrie. Des raids de la coalition internationale autour de Kobané pour faire reculer l'organisation de l'État islamique. Et cet appel, ce matin, de François Hollande à la Turquie.
Là, en ce moment, il y a un martyr. C'est cette ville de Konabé qui peut à tout moment tomber dans les mains des terroristes et avoir des conséquences très graves pour les populations civiles. Et la Turquie doit absolument ouvrir sa frontière. Et à travers la Turquie ou à travers d'autres voies, nous devons apporter tout le soutien à l'opposition syrienne. En l'occurrence, ce sont des Kurdes, mais ce sont des Kurdes syriens.
Harlem Désir, la Turquie porte une lourde responsabilité dans ce qui se passe en ce moment à Kobané.
Aujourd'hui, ce qui se passe à Kobané, c'est d'abord le fait des agissements terribles et barbares du groupe Daesh. Et la responsabilité de l'ensemble de la communauté internationale, les pays qui sont dans la coalition, qui interviennent en Irak, comme les pays voisins, et notamment la Turquie, c'est effectivement de venir en aide aux populations kurdes qui sont victimes de cette terreur imposée par le groupe Daesh et qui aujourd'hui essaye, pour ce qui est des Kurdes de Syrie et des Kurdes turcs, de résister. Et pour cela, il faut effectivement que la frontière leur soit ouverte à eux, que des équipements leur soient fournis. C'est pourquoi, vous le savez, la France a décidé depuis déjà un certain temps d'aider à la fois l'opposition syrienne, mais aussi les Peshmerga kurdes irakiens. Et la France appuie, évidemment, par des interventions aériennes, la lutte contre le groupe État islamique.
Mais on dit que les Turcs empêchent la livraison d'aide ou d'armes aux combattants kurdes parce qu'ils sont kurdes.
C'est pourquoi il y a cet appel qui a été lancé par le président de la République et qui a été lancé par les grands responsables internationaux, que tout soit fait pour aider les Kurdes qui aujourd'hui sont martyrs dans la ville de Kobané, et que donc il y ait peut-être demain une zone tampon. Le président de la République, vous le savez, a eu un contact avec le président turc Erdogan pour dire que nous étions prêts à soutenir l'idée qu'il y ait une zone protégée internationale, mais qu'il fallait évidemment que la Turquie soit aussi aux côtés de la coalition internationale dans la lutte contre l'État islamique d'une façon très résolue.
Une question de Rémi Daudet de Libération.
Alors oui, d'après le ministère de l'Intérieur, on a à peu près 1000 Français qui sont partis faire le djihad en Syrie, ou dans cette zone-là. On lit beaucoup de récits de ces Français qui sont revenus. Qu'est-ce que ça vous évoque et qu'est-ce que ça dit, selon vous, la France d'aujourd'hui?
Bon, d'abord, ce groupe, en Irak, mais aussi en Syrie, a décidé effectivement d'utiliser la propagande par Internet pour essayer de recruter des combattants venant du monde entier, et notamment d'Europe et de France. Et le ministère de l'Intérieur, vous l'avez rappelé, a recensé environ 950 Français qui ont été en contact ou qui ont tenté de se rendre en Syrie. Certains, plus de 500 en Syrie ou en Irak, se sont rendus sur place. 36 Français sont morts aujourd'hui dans les combats sur place. Et il y a le risque qu'en revenant, comme ça a été le cas pour Mohamed Nemouche, qui a été l'auteur de la tuerie au musée juif de Bruxelles, ils organisent des actes terroristes. Donc nous avons décidé d'abord de renforcer, depuis déjà plusieurs mois, puisque le ministre de l'Intérieur avait préparé ses projets avant l'été, ils ont été maintenant présentés devant le Parlement, les éléments de coopération internationale, mais aussi la possibilité, vous le savez, d'interdire la sortie du territoire quand il y a des preuves qui sont établies qu'une personne essaye de se rendre en Syrie ou en Irak pour rejoindre ces groupes terroristes. Ça peut aller jusqu'à la confiscation du passeport, de la pièce nationale, de la carte nationale d'identité, l'inscription au fichier des personnes recherchées dans le système informatique Schengen. Il y a également la possibilité d'incrimination d'une personne pour entreprise terroriste. Avant, c'était uniquement lié à une association de malfaiteurs à visée terroriste. Aujourd'hui, ça peut être le fait qu'une personne essaye de rejoindre ces groupes ou tente de revenir après les avoir rejoints pour éventuellement commettre des actes. Et donc, on a renforcé l'arsenal législatif. Mais il y a aussi une lutte à mener contre la propagande elle-même. Et c'est vrai que ça nous amène à nous interroger sur ce qui fait que des jeunes, il semble que ce soit quand même essentiellement des jeunes, même si c'est pas uniquement des jeunes, mais en particulier des jeunes, et là c'est particulièrement dramatique, se sentent attirés par cette propagande sur Internet, par les actes même de barbarie qui sont diffusés, les images de décapitation. Et donc, il y a aussi, vous le savez, un travail que nous faisons par exemple avec les Britanniques sur le qu'on appelle le contre-narratif, c'est-à-dire le contre-récit, pour essayer de montrer, d'abord lutter contre la diffusion de cette propagande par Internet, avec y compris là aussi des mesures de justice qui peuvent permettre de d'empêcher la diffusion d'un certain nombre de ces images, mais aussi faire un travail en direction de ces jeunes, pour leur dire que ce groupe, en particulier ce groupe-là, État islamique, ne représente ni l'islam et ses valeurs, ni en quoi que ce soit quelque chose à quoi un être humain puisse s'identifier, et que c'est par ailleurs extrêmement dangereux pour tous ceux qui essaieraient de le rejoindre que de participer à ces activités.
Harlem Désir est l'invité de Mardi Politique sur RFI avec France 24 et Libération. Alors, retour à la politique française, la droite ne réclame plus la démission de François Hollande. En ce moment, c'est à gauche que les voix les plus virulentes se font entendre contre le président. C'est le cas, par exemple, de Delphine Batho, l'ancienne ministre de l'écologie. Elle avait été débarquée l'an dernier du gouvernement. Elle l'a dit sur Europe 1, François Hollande ne peut pas être candidat en 2017.
Je suis très respectueuse des personnes, mais c'est vrai que je tire un bilan implacable d'une génération qui paraît aujourd'hui être prisonnière d'une vision gestionnaire et qui ne porte plus l'aspiration à changer la société. Dans la Ve République, presque toujours, les présidents sortants ont été candidats à leur réélection. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, il n'est pas en situation d'emmener la gauche à la victoire lors des prochaines échéances. Oui.
La socialiste Delphine Batho, elle sera d'ailleurs l'invitée de RFI demain matin, 7h50, heure de Paris. Alors, qu'est-ce que vous lui dites à Delphine Batho? Vous la connaissez bien en plus, parce qu'elle est passée par SOS Racisme. Tu craches dans la soupe?
Non, mais moi je vois le président de la République, il est totalement dédié et déterminé à son mandat, qui est celui qui ont confié les Français, c'est-à-dire redresser le pays dans la crise. Quand François Hollande est arrivé en 2012, je l'ai rappelé tout à l'heure, la dette avait doublé pendant les 5 années précédentes, la France avait reculé en matière de commerce extérieur. On pourrait mentionner d'autres domaines aussi, l'éducation, nous avons reculé dans les classements PISA, et en même temps la France c'est un pays, on vient de le voir avec les deux prix Nobel.
Oui, mais je vais répondre, ça vous interpelle pas?
Mais oui, mais nous sommes dans l'action. La France c'est aussi un pays qui est la deuxième économie de l'Europe, c'est un pays qui a parmi les grandes entreprises les plus performantes du monde. C'est dans les 500 premières entreprises la France qui a le plus d'entreprises en Europe.
De prix Nobel, ces jours-ci.
Voilà, c'est une culture scientifique, c'est des jeunes très brillants, c'est un prix Nobel d'économie, c'est un prix Nobel de littérature, c'est un rayonnement. Donc, c'est un pays qui a les atouts pour s'en sortir. Et tout ce à quoi se consacre le président de la République, c'est à proposer aux Français voies d'un redressement.
Ce que vous voulez dire, c'est son destin importe peu, finalement? Son avenir politique en 2017, c'est pas la question?
Mais moi, je pense que le président de la République sera candidat en 2017, mais c'est à lui qu'il appartient évidemment prendre cette décision.
Même si le chômage n'a pas baissé.
Et d'en décider. Mais parce que ce qui compte, c'est l'action que l'on mène, sont les réformes que l'on met en place et qui permettent au pays de repartir de l'avant. Et quand vous regardez ce qui a été fait sur le plan économique, ce qui est fait sur le plan, je l'ai dit tout à l'heure, de l'organisation de notre territoire, ce qui est fait sur le plan de l'éducation, ce qui est fait pour réorienter l'Europe dans une nouvelle direction, c'est une présidence qui aura profondément transformé le pays.
Rosine Fèvre.
Mais quand on entend Delphine Batho ou quand on entend les frondeurs, est-ce qu'on on se dit pas quand même qu'il y a quand même des socialistes qui ont raté une marche, voire plusieurs. Ils veulent encore, ils rêvent de gouvernants qui réenchantent la politique. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien à réenchanter. Il n'y a plus rien à redistribuer. Aujourd'hui, il faut gérer, il faut effectivement contrer cette dette, etc. Est-ce que vous avez le sentiment que quand même, il y a certains socialistes dans votre camp qui n'a pas pris la mesure et qui vit encore dans les années Mitterrand ou dans les années Jospin?
Mais
qui n'est pas dans le réalisme d'aujourd'hui.
Nous sommes dans un temps très difficile pour la France, parce qu'elle est mise à l'épreuve par la mondialisation, depuis déjà longtemps. Et en même temps, la politique qui est menée, c'est celle qui nous permet de continuer à préparer l'avenir. Quand, par exemple...
Non, mais justement, vous ou les socialistes comme Delphine Bateau? Mais répondez.
Je vais leur répondre à eux. Non, parce que moi, je compare avec ce qui se fait dans d'autres pays d'Europe. Vous nous disiez, dans d'autres pays, regardez, ça va mieux. Enfin, nous n'avons jamais sacrifié le budget de l'éducation. C'est même l'inverse. Aujourd'hui, enfin, nous offrons une formation aux enseignants et nous recréons des postes, parce que ça, c'est préparer l'avenir et que nous ne voulons pas sacrifier une génération. Nous continuons à investir dans des grands projets d'infrastructures et d'avenir. Par exemple, je rencontrais aujourd'hui le futur coordinateur du projet de canal Seine Nord, qui est un projet que nous défendons au plan européen. Oui, parce que c'est du développement durable, parce que c'est structurant pour les régions.
C'était pas ma question, Harlem Désir.
Nous venons d'adopter aujourd'hui la loi de transition énergétique, qui veut dire que nous allons investir massivement dans l'efficacité énergétique, dans les renouvelables, et en même temps continuer à rester leader en matière de nucléaire, ce qui est une énergie d'avenir si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Mais
il faut peut-être qu'on sache aussi voir. Malgré la situation difficile dans laquelle est notre pays, qui implique des réformes, des efforts,
mais justement,
etc.
Est-ce que c'est pas des gens comme Delphine Bateau qui bloquent le pays aussi? Il y a 30 ans de réformes qui n'ont pas été faites parce qu'on a refilé, les politiques n'ont cessé de refiler la patate chaude à leurs successeurs. On dit que les Français ont du mal à se réformer eux-mêmes, mais est-ce que, par exemple, aujourd'hui, c'est pas des gens comme Delphine Bateau et les frondeurs qui bloquent quand même la France et les réformes?
Mais surtout, je comprends ce que vous voulez dire, c'est qu'effectivement, je crois qu'il ne faut pas opposer le fait de faire des réformes, de faire un certain nombre d'efforts, je l'ai dit, le mot il doit être là parce que c'est une réalité, pour dépenser moins dans les collectivités locales, dans le fonctionnement de notre administration. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons plus rien faire pour l'avenir, au contraire, ça veut dire que nous nous redonnons des capacités à investir davantage dans ce qui va être important pour demain, l'éducation, la formation, les infrastructures énergétiques, le numérique, qui est un grand projet pour l'Europe. Et donc il faut pas, je pense, rentrer dans cette idée, soit on est en train de faire des réformes et donc on renonce à tout projet enchanteur, soit on veut avoir un projet enchanteur pour l'avenir, et alors on pense qu'on peut échapper aux réformes. Non, il faut faire les réformes et en même temps il faut investir et préparer l'avenir.
Harlem Désir, Rémi Daudet de Libération, une question pour vous.
Alors oui, c'est intéressant parce que vous voulez répondre aux frondeurs. Ce printemps, ils ont, lors des précédents textes budgétaires, ils ont posé un diagnostic finalement en s'inscrivant dans le cadre de François Hollande, du pacte de responsabilité. Ils ont dit finalement il faut en donner un peu plus aux ménages et un peu moins aux entreprises, en clair. Est-ce que vous dites que c'est seulement une posture ou est-ce que c'est un débat de fond qui traverse la gauche et qui est intéressant et qui révèle finalement deux visions aujourd'hui?
Je veux me prononcer que sur le fond. Sur le fond, dans le budget qui est... commence à être débattu à l'Assemblée aujourd'hui, celui dont nous parlions, qui va être transmis à l'Europe, il y a une réduction de 3,2 milliards des prélèvements sur les ménages. Et donc, il y a une redistribution de pouvoir d'achat pour les ménages les plus modestes, qui va se faire sous la forme, vous le savez, de la suppression de la première tranche d'impôt sur le revenu et d'un relèvement du plafond d'entrée. Donc ça va concerner une grande partie des ménages de catégorie moyenne. C'est environ 6 millions de ménages qui vont voir leur contribution fiscale allégée. C'est la première fois depuis 5 ans qu'il n'y a pas dans le budget de la France une mesure générale qui accentue la fiscalité. Donc c'est une mesure qui effectivement va dans le sens, qui a été souligné par un certain nombre de parlementaires, de quelque chose qui soit un rééquilibrage, un équilibrage en tout cas, des allègements fiscaux, une partie importante pour les entreprises, parce que quand on aide les entreprises en matière fiscale aujourd'hui, c'est-à-dire quand on abaisse avec le CICE, avec la baisse des cotisations sociales, la taxation sur les entreprises, c'est pas un cadeau au patron, c'est une bouffée d'oxygène qui est donnée aux entreprises pour qu'elles puissent investir, innover, exporter.
Et donc, ce que les frondeurs réclament, c'est un un rééquilibrage en faveur des
un
ménages.
Un peu plus grand. Un peu plus grand.
Oui, je comprends bien, mais je leur dis qu'on le fait, mais qu'il y a un domaine qui est absolument essentiel, c'est de retrouver pour notre tissu économique une capacité à être compétitif et à innover, parce que c'est là que se joue l'emploi pour demain. L'emploi public, il existe, et je l'ai dit, dans le domaine de l'éducation, comme d'ailleurs dans le domaine de la sécurité, par exemple, pour les policiers, les gendarmes, nous remettons des postes de fonctionnaires, mais en même temps, globalement, la plupart des Français, ils travaillent dans le privé. Et c'est si l'économie d'entreprise fonctionne que l'on réussira à faire baisser le chômage. Et pour cela, il faut qu'on rattrape un certain nombre de retards. Nos grandes entreprises marchent bien parce qu'elles sont très mondialisées. Et c'est très bien, hein, parce que moi, je passe mon temps en Europe à voir comment nos très grandes entreprises, celles du CAC 40, sont présentes sur tous les marchés européens. Et ça permet de continuer à financer la recherche, le développement, les centres de décision qui sont en France. Mais l'essentiel de l'emploi, il est dans les petites et moyennes entreprises. Et c'est là qu'il y a aujourd'hui des difficultés.
Est-ce qu'il aurait pas fallu cibler davantage sur ces PME, par exemple, plutôt que de distribuer comme ça du saupoudrage à tout le monde? Est-ce qu'il aurait pas fallu cibler?
Mais en fait, l'essentiel des mesures que nous prenons en faveur des entreprises, elles vont bénéficier aux petites et moyennes entreprises. Parce que l'essentiel du tissu économique qui va bénéficier de la baisse de 40 milliards des prélèvements fiscaux et sociaux sur les entreprises, ce sont des petites et moyennes entreprises.
Harlem Désir, très rapidement, une petite question sur Nicolas Sarkozy, son retour depuis trois semaines, retour réussi selon vous?
Si j'en juge par les commentaires faits par ses propres amis, ce n'est pas le cas, puisque il a plutôt été vécu ce retour comme un facteur de division que de rassemblement dans son camp.
Ça vous rassure, finalement?
Mais c'est pas à moi qui revient de choisir qui sera demain le leader de l'opposition.
Vous avez un adversaire préféré?
Non, je n'en ai pas, parce qu'on prend celui dont ils se doteront. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que à partir du moment où il y a à la fois Nicolas Sarkozy et d'autres personnalités comme Alain Juppé qui deviennent les porte-parole de l'opposition, il y a un débat qui peut s'organiser, projet contre projet. Et nous avons parlé là de la politique budgétaire, de notre politique sociale, de notre politique éducative, économique, eh bien, on va pouvoir débattre de ce que propose aujourd'hui l'UMP, c'est-à-dire non pas 21 milliards de réduction du déficit ou 50 milliards comme nous le proposons d'ici à 2017, mais eux, ils proposent 100 ou 150 milliards de réduction. Alors là, ça veut dire qu'effectivement, on n'embauche plus de profs, on supprime des postes d'infirmières, on renonce aux services publics, on renonce à l'assurance chômage, on renonce à l'assurance maladie. Donc, ayons ce débat. Comment est-ce que effectivement on prépare l'avenir pour la France? Est-ce que c'est en démolissant le modèle social et républicain, ou est-ce que c'est en le réformant? Parce qu'effectivement, il faut le réformer, mais pour lui redonner de la vigueur.
Donc grâce à Nicolas Sarkozy, si on vous comprend bien, enfin, on peut redébattre en France. Juste, il nous reste 2 minutes, Harlem Désir. Je voudrais vous faire écouter un document d'archives.
Vous êtes là, vous êtes venus, parce que vous le savez, ce mouvement n'appartient à personne, parce qu'il n'appartient qu'à vous. À vous qui portez le badge, à vous que vous soyez beurre de Bordeaux, juif de Toulouse, antillais de Brest, à vous, français de toute culture, immigrés de la première à la 10e génération.
Oh, voilà, Harlem Désir, c'était vous, il y a 30 ans, c'était le concert des potes Place de la Concorde en 1985, il y avait 300 000 personnes, la petite main jaune, le badge touche pas à mon pote, SOS racisme, vous étiez l'un des visages de la génération Mitterrand, c'est exactement demain le 30e anniversaire de la création de SOS, c'était l'époque où finalement la gauche avait encore une influence sur la société.
C'était surtout un combat nécessaire, juste. Et il l'est toujours.
Vous avez de la nostalgie quand vous rentrez?
Non,
il n'y
a pas d'avoir de nostalgie, mais je ne regrette pas d'avoir été un des acteurs de ce combat pour dire que, quelle que soit son origine, quand on est né en France, qu'on a grandi en France, on fait partie de l'avenir de la France.
Est-ce que la France, elle est plus raciste aujourd'hui qu'il y a 30 ans?
Je ne crois pas. Je pense que il y a toujours du racisme dans nos sociétés. Il existe. Mais je crois qu'on a avancé. Je crois qu'aujourd'hui, personne n'oserait vraiment remettre en cause le fait que, justement, un enfant qui est né ici, quelle que soit son origine, que ses parents soient d'Algérie ou d'Auvergne, est un enfant français. À l'époque, on en était encore à devoir répondre à cette question-là. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a toujours de la ghettoisation sociale, qu'il faut lutter pour l'égalité dans tous les domaines. Et ce combat, il doit continuer à être mené.
Merci Harlem Désir. On doit s'arrêter là. C'est la fin de Mardi Politique, réalisé par Mathias Golshani, Audrey Yatoni à la programmation. Merci aussi à Roselyne Fèvre de France 24 et Rémi Daudet de Libération. Merci à tous. Très bonne soirée à tous. We'll